Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue à l'écoute de ce programme. À l'audience générale, mercredi 15 janvier, le pape est revenu sur l'exploitation d'enfants dans le monde, soulignant que ce sont les plus jeunes qui payent le plus grand prix de la pauvreté généralisée, du manque d'outils sociaux pour soutenir les familles et de la précarité de l'emploi. Il a exhorté à éveiller les consciences et pratiquer une proximité et une solidarité concrète avec les enfants et les jeunes maltraités, tout en demandant aux journalistes de sensibiliser le public aux problèmes et de les dénoncer. L'actualité de l'Église nous conduira également au Tchad et en Côte d'Ivoire. L'actualité politique et sociale sur le continent africain concerne le Mozambique, la Guinée et la République centrafricaine, entre autres. La deuxième partie de ce programme est consacrée à l'invité du jour. Bienvenue encore une fois à l'écoute de ce programme que nous commençons avec l'actualité de l'Église, avec l'audience générale du pape.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
L'abus des enfants est méprisable et atroce. Le pape François a poursuivi son cycle de catéchèses dédiées aux enfants, condamnant les différentes formes d'abus et de maltraitance dont des millions d'entre eux sont victimes. Il a pointé la responsabilité de la pauvreté et de notre indifférence, exhortant à écouter la souffrance de ceux qui restent sans voix et à ne pas se rendre complices de leur exploitation, les précisions de Xavier Sartre.
Ils sont exposés à des travaux particulièrement dangereux, esclaves de la traite à des fins de prostitution ou de pornographie, contraints à des mariages forcés. Le pape François dénonce les nombreuses façons d'abuser des enfants et de les maltraiter. Autant d'actes méprisables et atroces, des fléaux pour la société et un crime, une très grave violation des commandements de Dieu. Le Saint-Père rappelle qu'aucun enfant ne devrait être abusé. Un seul cas est déjà trop, affirme-t-il, pointant du doigt la pauvreté généralisée, le manque d'outils sociaux pour soutenir les familles, la marginalité, le chômage et la précarité qui poussent les enfants à se livrer au trafic de drogue et aux activités illicites les plus diverses. Le souverain pontife fustige aussi une fracture humaine et sociale inacceptable entre ceux qui peuvent rêver et ceux qui doivent succomber, et qu'il est d'autant plus que Jésus nous veut tous libres et heureux. Il nous demande de nous arrêter et d'écouter la souffrance de ceux qui restent sans voix, sans éducation. Combattre l'exploitation, notamment celle des enfants, c'est construire un avenir meilleur pour l'ensemble de la société, s'exclame le pape. Pour cela, il ne faut pas se rendre complice, notamment du travail infantile, en n'achetant pas, par exemple, des vêtements fabriqués ou de la nourriture produite par des enfants exploités qui travaillent au lieu d'aller à l'école. Chacun peut être une goutte qui, avec beaucoup d'autres gouttes, peut devenir une mère, poursuit-il, invoquant Sainte Thérèse de Calcutta, qui peut nous accompagner pour voir les petits invisibles, les trop nombreux esclaves d'un monde que nous ne pouvons pas laisser à ces injustices, parce que le bonheur des plus faibles construit la paix de tous.
À l'issue de l'audience générale, le pape a lancé un appel contre la guerre qui reste une défaite. Il a demandé de prier pour la conversion de ceux qui produisent des armes et pour les victimes du glissement de terrain de Pakan au Myanmar. Que le soutien et la solidarité de la communauté internationale ne manquent pas, a précisé le pape. Avant sa traditionnelle audience générale de mercredi 15 janvier, François a reçu les délégations de Caritas d'Amérique latine et des Caraïbes, les exhortant d'être des anges pour ceux qui souffrent d'injustice. Au directeur et président des différentes organisations présentes en Amérique du Sud, le pape a présenté ses encouragements à sauvegarder ce qui signifie garde, défense, protection, apporter l'amour du Christ dans des petits gestes de soins et charité. Les prières du pape François pour la libération de prisonniers, notamment à Cuba, ont été en partie exaucées. Le gouvernement cubain a annoncé mardi 14 janvier que 553 détenus seraient libérés dans l'esprit du jubilé ordinaire de 2025. Quelques heures auparavant, le président américain Joe Biden a retiré Cuba de la liste noire des États soutenant le terrorisme. C'est le fruit d'un long travail patient, d'une médiation discrète et constante depuis des années, celle du Saint-Siège en faveur de la libération des prisonniers cubains. Dans un communiqué du ministère cubain des Affaires étrangères, il est précisé que le pape François a été informé de cette décision à travers une lettre envoyée début janvier par le président Díaz-Canel. Il y explique que cette mesure est prise dans l'esprit du jubilé ordinaire de 2025. La décision cubaine intervient aussi juste après celle du président américain Joe Biden de retirer Cuba de la liste noire des États soutenant le terrorisme. La Maison-Blanche évoque elle aussi le rôle joué par l'Église catholique. Dans un communiqué officiel publié mardi, il est bien dit que cette mesure a pour but de renforcer le dialogue en cours entre le gouvernement cubain et l'Église catholique. Le secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États et les organisations internationales, Mgr Paul-Richard Gallagher, a clôturé mardi 14 janvier la visite à Brazzaville, dont Séverin Moussavou nous fait un compte-rendu.
Au nom des activités menées durant son séjour dans la capitale Brazzaville, Mgr Gallagher a présidé la messe dimanche 12 à l'occasion de la fête du baptême du Seigneur à la place Maria de la cathédrale Sacré-Cœur. Dans la matinée du lundi 13, le secrétaire du Saint-Siège chargé des relations avec les États et les organisations internationales a présidé la cérémonie des lancements de la commission mixte de suivi pour l'application de l'accord cadre au ministère des Affaires étrangères. Le mardi 14, jour de son retour, Mgr Gallagher a été reçu par le chef de l'État congolais, M. Denis Sassou Nguesso. Mgr Gallagher, à l'issue de l'audience avec le président de la République.
En vue des relations diplomatiques qui existent entre la République du Congo et le Saint-Siège, et aussi l'intérêt, l'attention que le Saint-Père François voudrait montrer vers aussi l'Église catholique ici et toute la société congolaise. Avoir l'honneur d'avoir un entretien avec le président de la République. Nous avons eu le plaisir de participer dans le lancement de la commission mixte pour l'application de la code cadre. Alors ça nous permet d'avancer des travaux au bénéfice de tous les Congolais.
C'est vraiment Savo, Brazzaville pour Radio Vatican.
L'actualité de l'Église nous conduit au Tchad. Édouard Takadji nous fait part du lancement par la Direction nationale des œuvres pontificales missionnaires le 12 janvier des activités marquant la célébration de la Journée mondiale de l'enfance missionnaire.
Placée sous le thème « La coopération matérielle », l'Église Famille de Dieu qui est au Tchad consacre la période allant du 13 janvier au 5 février 2025 pour vivre ses mois missionnaires. Un livret a été conçu par la Direction des œuvres pontificales missionnaires pour aider les mouvements et communautés ecclésiales de base à réfléchir sur le quotidien des enfants. Dans ces livrets, plusieurs sous-thèmes tels que « Enfants, je suis témoin de Jésus dans ma famille »,« Enfants, je participe aux OPM avec les autres enfants de mon école » et « Enfin, enfants, j'ai construit mon église avec les autres enfants ». L'occasion pour le directeur des œuvres pontificales missionnaires, l'abbé Benma Mbainada, d'inviter les chrétiens à contribuer pour les œuvres pontificales missionnaires.
Les maisons que nous voyons ici, si ce n'est pas la solidarité universelle, nous ne pouvons pas avoir ces maisons aussi. C'est vrai, nous aussi, nous avons contribué. Mais la solidarité universelle nous a appuyés pour que nous ayons cette structure. Et c'est pour ça que chaque chrétien, quand il donne quelque chose, il a participé à la mission de l'Église universelle. Il a participé pour que d'autres jeunes garçons et filles deviennent des prêtres, des religieux pour continuer l'annonce de la bonne nouvelle.
Edouard Takadji Ndjamena, Radio Vatican.
La conférence des supérieurs majeurs de Côte d'Ivoire se prépare à vivre l'année jubilaire 2025 sous le signe de l'espérance. Elle a dévoilé samedi 11 janvier, au cours d'une conférence de presse, les différentes activités qui vont la meubler, les détails avec Marcel Ariston-Blé.
Cette conférence qu'animait le père Emmanuel Ekanga, religieux fils de la charité, a été l'occasion pour lui de situer son auditoire sur les grands axes de leur jubilé.
Ce jubilé nous demande d'être tous mobilisés pour vivre nos activités, notamment les grandes activités, cette formation que nous avons pendant ce mois de janvier, une formation jubilée, de vivre le triduum de prière des 29, 30 et 31 janvier, qui sera couronné par le grand pèlerinage à la basilique Notre-Dame de la Paix à Yamoussoukro, la nuit du 1er février au 2 février. Ensuite, nous aurons aussi un grand forum pour célébrer, pour magnifier et présenter la vie consacrée aux fidèles, aux hommes et femmes de Côte d'Ivoire.
Au terme de cette conférence de presse, le père Emmanuel Kanga a invité tous les consacrés de Côte d'Ivoire à saisir les grâces de cette année jubilaire en vivant ces activités que la conférence leur propose, souhaitant que chacun puisse être engagé. Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Depuis le 9 octobre, date de la dernière élection présidentielle, le Mozambique vit sous haute tension. Daniel Chapo, candidat du Frelimo, parti au pouvoir, a remporté le scrutin. Le principal opposant, Venancio Mondlane, a appelé dimanche à une grève nationale durant la période qui coïncidait avec la prestation de serment mercredi du nouveau chef de l'État. La crise post-électorale a été émaillée de manifestations réprimées par la police. L'analyse de ce malaise avec le professeur d'histoire africaine Eric Morier-Genoux, spécialiste du Mozambique à la Queen University de Belfast en Irlande du Nord.
L'élection même s'est bien passée, mais ce qu'on a vu principalement, c'est des grosses fraudes lors du comptage des élections. Et ceci a été vu par des observateurs nationaux comme les observateurs internationaux et les partis d'opposition ont décidé de faire un recours. Les avocats de l'opposition du Podemos et de Venancio Mondlane se sont fait assassiner dans la rue à Maputo, qui a amené à des manifestations le jour suivant, manifestations qui ont été réprimées. Le discours de l'opposition, en particulier de Venancio Mondlane, a commencé par contester les élections, ensuite parler d'aller prendre la présidence et changer de régime. Et je dirais qu'en décembre, la situation s'est encore aggravée dans la mesure où une partie de la population demande une réforme de la terre, la fin de cet état, le départ du Frelimo. Il y avait presque une révolution sociale.
On a le sentiment que cette séquence a ravivé un peu les fractures du Mozambique, à savoir une grave crise sociale, la répartition des richesses inégale. C'est un peu l'image que l'on peut avoir de ces maux du pays qui refont surface actuellement.
Tout à fait, c'est des problèmes structurels de la société mozambicaine et que les partis d'opposition, petit à petit, avaient cessé de parler d'eux et de faire des revendications. Et Venancio Mondlane a réussi à capter cette dissatisfaction de la population. Et on se retrouve à la situation actuelle où les partis d'opposition vont discuter avec le président et Venancio Mondlane devient le seul représentant des populations qui sont marginalisées et qui demandent un changement profond dans la manière dont le gouvernement agit au Mozambique.
Que représente Venancio Mondlane pour ses partisans et pour le Mozambique aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils attendent de lui?
Alors, c'est tout le problème, c'est que Venancio Mondlane est un excellent politicien, c'est aussi un pasteur évangélique, donc tout le monde espère évidemment que des négociations aient lieu et qu'une réforme significative de l'État et de la manière dont le pays est gouverné puisse éviter quelques problèmes.
Éric Morier-Genoux, professeur d'histoire africaine et spécialiste du Mozambique à la Queen University de Belfast en Irlande du Nord, interrogé par Olivier Bonnel. Ajoutons que le président du Mozambique, Daniel Chapo, a été officiellement investi mercredi dans une capitale quadrillée par des forces de l'ordre après des mois d'une meurtrière contestation post-électorale que le principal opposant a appelé à poursuivre, exhortant à paralyser le pays. Rappelant la crise traversée par le Mozambique depuis les élections d'octobre, le président sortant, Philippe Nyusi, a appelé à la réconciliation. En Guinée, un des membres du Conseil national de transition a rendu sa démission lundi soir. Il estime que sa mission, dont la durée tenait au chronogramme de la transition arrivée à expiration le 31 décembre, est terminée. L'armée nigérienne et la société chinoise WAPCO ont signé mardi à Niamey des accords pour la sécurisation des opérations et des installations pétrolières dont l'oléoduc transportant du brut vers le Bénin voisin est visé par une série d'attaques depuis l'année dernière. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra est arrivé mercredi à Moscou pour une visite officielle de 3 jours et s'entretenir avec son homologue russe Vladimir Poutine, ainsi que pour discuter de l'état et des perspectives de développement de la coopération bilatérale dans les domaines politiques, commerciaux, économiques et humanitaires, également pour discuter des questions d'actualité sur l'agenda international et régional.
invité du jour.
République centrafricaine toujours, au terme de leur assemblée plénière tenue du 6 au 13 janvier, l'épiscopat de ce pays a, dans son message final, souligné les nombreux défis de l'Église en Centrafrique après 130 ans d'évangélisation. Les évêques ont particulièrement mis l'accent sur la situation préoccupante de la jeunesse. À marge de cette assemblée, la conférence épiscopale centrafricaine a été reçue en audience par le président Faustin Archange Touadéra. Monseigneur Nestor Désiré Nongo Asbiagbia, évêque de Bossangoa, revient sur quelques points clés du message clôturant leur assemblée plénière. On l'écoute.
Si nous voulons construire un avenir à cette nation centrafricaine, il faudra bien prendre soin de notre jeunesse.
Et que fait l'Église dans ce sens ?
Au niveau de l'Église catholique, nous avons certaines infrastructures pour accompagner notre jeunesse. Nous avons des écoles, des centres de formation. Et les mouvements et fraternités orientés vers les jeunes sont importantes. On essaie de les accompagner au mieux de notre capacité. La jeunesse doit se remettre en cause. Mais face à la solution de facilité, du gain facile et autres, nous devons reprendre tout à la base. Une formation civique, une formation enracinée dans des valeurs éthiques.
Monseigneur Nongo, quels sont les défis de l'Église en Centrafrique aujourd'hui?
Ça fait aujourd'hui 130 ans que nous avons reçu l'annonce de l'Évangile en terre centrafricaine. Et nous l'avons aussi constaté, cette annonce a produit des effets bénéfiques sur notre population. Nous devons nous approprier cette bonne nouvelle. C'est dans cette perspective que nous avons énuméré quelques défis. Parlons de l'inculturation. C'est une invitation à développer davantage un accompagnement et une plus grande sollicitude vis-à-vis de l'effervescence culturelle qui anime les mouvements et les fraternités qui sont très importantes pour la vie de notre Église. En ce qui concerne l'autoprise en charge, à 130 ans, nous sommes aujourd'hui adultes. Nous devons devenir par conséquent responsables dans la gestion et la prise en charge de notre Église. Quant à la dimension de l'écoute, c'est la continuation de l'évangélisation et l'invitation à plus de solidarité. Solidarité entre les diocèses, solidarité avec les congrégations religieuses qui doivent aussi sortir de la capitale, la ville de Bangui, pour aller dans les diocèses excentriques. Sur la question de la promotion et de la valorisation des différences et de la diversité, nous avons tous reçu des dons et des charismes. Et ces dons et ces charismes-là doivent être reconnus en chacun des fils et en chacune des filles de notre Église et faire prospérer toutes ces valeurs-là pour que nous soyons une Église beaucoup plus inclusive qui porte la parole de Dieu en mission.
Monseigneur Nestor Désiré Nongo Asiagbia, évêque de Bossangoa, interrogé par Françoise Niamien.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de ce programme que Marie-José Mwando-Boabolo a eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à très bientôt à l'écoute de nos prochaines éditions. Laudetur Jesus Christus.